tu vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on art, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écoute. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
En direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal, c'est ton podcast préféré, le 11e de la 4e saison de Laurent s'écoute parler. Bon, cette semaine, j'ai des affaires extraordinaires à vous raconter. Ce matin, je me suis réveillé et devant ma maison se retrouvait le spectaculaire Vincent Tremblay. Donc, on est allé faire un... allé se promener au 213 boulevard Lacombe à Repentigny où notre bon ami Tech a un magasin TW Sport Card et j'y ai demandé poliment puis il m'a donné deux photos signées par Luciane Boutet. Je vous conseille d'aller le rencontrer à Repentigny. C'est spectaculaire comme magasin, il y a beaucoup de cartes d'hockey, de bonhommes Funko Pop, tu peux acheter des boîtes, il y a des Pokémon. Je veux dire, moi, étant un collectionneur assez amateur dans l'âme, j'ai été très heureux. Cole Caulfield est blessé pour la saison, le Canadien aurait pu gagner, ont battu les Maple Leafs de Toronto. Et moi, je suis un grand partisan des Cowboys de Dallas. Et là, comme je vous parle, j'écoute Cincinnati contre Buffalo et il y a une seule affaire que j'ai hâte, c'est de voir mes Cowboys de Dallas démolir les 49ers de San Francisco. Notre défense plus rapide que jamais, notre monstre à deux têtes avec Ezekiel Elliott et Tony Pollard, Dak Prescott qui coûte seulement 40 millions par année, C.D. Lamb qui attrape des passes. Je dis Michael Gallup, peut-être le meilleur receveur numéro 2 de la Ligue. J'en tremble présentement. J'ai sorti mes jerseys des Cowboys. J'ai ma tuque des Cowboys qui a été offerte gracieusement à Noël par Monsieur Steve Vieira. Quand tu m'offres une tuque, tu as le droit d'avoir un monsieur. Hier, chronique inflation, j'étais allé à la cage aux sports de la place Versailles, puis je vais juste vous dire, mais je ne suis pas commandité par la place Versailles, là, ça va paraître. Hey, ils attendent quoi les restaurants qu'on fasse faillite? Un pichet de 50, une assiette de 40, 4 tendres de poulet. Les tendres de poulet étaient quasiment aussi petits que des ringolos. J'ai changé ma frite pour une rondelle d'oignon, 72$ avec le pourboire. Donc, ma théorie. C'est qu'attendez-vous à ce que les gens fassent faillite à répétition sur nos trottoirs ou que tous les restaurants fassent faillite. Bientôt, le seul fun que tu vas pouvoir avoir, c'est d'acheter des affaires surgelées à l'épicerie puis des faire frire toi-même dans ta friteuse à air avec du ketchup ou de la mayonnaise parce que là les prix, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus un pichet à 35-36$, là. Le monde va arrêter de boire. C'est ça qui va arriver, je vous aurai prévenu. Cette semaine au podcast, je vais faire un grand éditorial sur Kim Clavel et ce que les médias ont essayé de faire cette semaine, qui est de normaliser la défaite. Le Québec est devenu un endroit où perdre, c'est le fun, perdre, c'est cool, et on glorifie la défaite. Et ça m'inquiète, et je ne veux pas vivre dans ce genre de société. Je vais vous parler de Marie-Ève Dicker, qui semble avoir déclaré à un journaliste du Journal de Montréal qu'elle prendra sa retraite dans les prochains jours. Je vais vous parler de ce que Marie-Ève pourrait encore accomplir si elle ne prenait pas sa retraite. Ce n'est pas moi qui va nécessairement la convaincre. On a une grande entrevue de 7 minutes avec Alexandre Gaumont, entrevue qui a été menée de main de maître par Vincent Tremblay. Il est arrivé de Rouyn-Noranda avec une entrevue en MP3 qu'il m'a remis. Je vais vous diffuser ça. Ça risque d'être un assez bon podcast, même si je suis en retard, parce que je suis allé passer du temps avec Vincent et on a bien rigolé. Ça commence. Une affaire qui me fait rire avec le monde de la boxe ou avec les journalistes, c'est que le même journaliste peut écrire tout et son contraire dans le même 48 heures. Avant le combat de Kim Clavel, on mentionnait à tout azimut qu'une défaite serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe pour Kim parce qu'on lui avait déjà planifié le reste de son année et tous ses combats d'unification. On rappelle qu'Yvon Michel a dit de Kim Clavel qu'elle serait la première boxeuse millionnaire au Québec. On avait déjà planifié la IBF, la WBO. On avait déjà commencé à mentionner un combat contre Senesia Estrada pour 1 million au Madison Square Garden. À peu près tout avait été dit. Là, elle arrive contre Jessica Neri Plata. Elle perd sans équivoque. Et Neri Plata a gagné. Ce combat était relativement serré, mais oui, Neri Plata méritait ce combat-là. Elle se comporte très dignement à la suite du combat dans les entrevues d'après-match. Mais là, le mot d'ordre est lancé de partout. Régent Tremblay écrit « La défaite est le condiment de la victoire ». OK. Tu diras ça à Rocky Marciano, Floyd Mayweather et Joe Calzaghe. En quoi une défaite est devenue maintenant obligatoire en boxe pour connaître du succès? Et c'est toujours le même pattern. Si ton boxeur commence avec un combat nul, on va rappeler Bernard Hopkins. Si ton boxeur subit la défaite, on va rappeler que Sugar Ray Robinson, Canelo et Manny Pacquiao en ont des défaites. Pacquiao, plus que le client en demande. On peut même faire des détours avec la boxe féminine où on va parler de Yelena Yerdejovic ou même Jessica Neri Plata, qui, elle, a des défaites. Mais c'est pas parce que mon voisin se pitche tête première sa tête en face de chez nous puis qu'il se fend pas le crâne que je suis obligé de faire pareil pour tester mon crâne. En quoi la défaite de Kim est une bonne nouvelle? Surtout que Jessica Neri Plata était une étape sur tout ce qui s'en venait. Senesia Estrada est meilleure que Jessica Neri Plata. Mais Plata est peut-être la deuxième, là. Ça c'est correct. Mais je trouve que le Québec, cette semaine, j'écoutais Mario Dumont, petit détour par la politique, c'est rendu que dans les écoles, ils ont tout essayé. Au lieu de donner des notes, ils ont donné des émoticônes. Ils ont donné des bulletins avec des A+, puis des B-, avec des sourires par en haut, puis par en bas. Ils ont donné des petits cœurs. Et là, il y a des gens qui demandent pour qu'on retire les notes. Tu sais, on va te donner une bine sur l'épaule quand ça va bien, puis on va te faire des gros yeux quand ça va mal. On est en train de normaliser la défaite, de normaliser l'échec. Je n'ai pas envie de vivre dans une société où si je vais me faire opérer par un chirurgien, la note qu'il y a eu à l'école, c'est un bonhomme sourire. Ça va, je vais me charcuter moi-même. Et en boxe, qui connaît du succès présentement le plus? Okay. Arthur Beterbiev. Mais Arthur Beterbiev, là, il veut rien savoir de la défaite. Il a craint. Il veut rien savoir. Il s'en va pas. Ça, il perd contre Anthony Yardé. Là. Beterbiev, les journalistes, ils diront pas après. Puis Beterbiev, t'es-tu content d'avoir perdu? C'est réglé, là, ton zéro, tu vas pouvoir passer à d'autres choses. Ça va être un désastre, puis il va probablement tout casser, puis il va pleurer, genre. Arrêtez, une défaite, c'est pas bon. Une défaite, c'est triste, c'est mal. Demandez à Lucien Bouté, c'est quoi la pire journée de sa vie. Il va dire que c'était à Nottingham contre Carl Froch. Kim Clavel, la pire journée de sa vie, c'était à Place Belle la semaine passée contre Yenésia Gomez. Marie-Ève Dicker, ah non, ça c'est un mauvais exemple. Elle est fière de ne pas avoir gagné un round contre Clarissa Shields, puis elle en parle partout. Mais Kevin Bisier, quand il revoit dans sa tête le combat contre Kell Brook, c'est un cauchemar. Même chose pour Joe Jordan. Il n'y a rien d'amusant à perdre. Et là, si vous y pensez, tous les exemples que je vous ai donnés, nos boxeurs étaient négligés. Sébastien Demers, en Allemagne, était négligé à 15 contre 1. Kim Clavel était négligée à 7 contre 1 et elle a subi la défaite. C'est une catastrophe pour la compagnie et c'est une catastrophe pour Kim Clavel. Rendu là, je comprends qu'on n'est pas pour se morfondre pendant des années. C'est une catastrophe, on se l'avoue, on l'assume, on retourne au gymnase puis on construit là-dessus. Je dis pas de commencer à prendre des activants par rester enfermé chez vous pendant 22 ans. Mais je dis pas non plus qu'il faut glorifier puis dire que c'est la meilleure nouvelle qui est arrivée depuis le remède contre la grippe. Là. J'ai trouvé que là, ça va faire les Roger Bontemps puis ça va faire de se sentir obligé de tout le temps dire que tout va bien quand ça va pas bien. Mais pour le reste, c'est pas grave. Kim va se remettre en selle, va s'entraîner, va faire des ajustements et tant mieux si elle revient plus forte. Mais de là, je refuse de dire, moi, que c'est une bonne nouvelle, une défaite. C'est une catastrophe. Catastrophe qu'on va vivre avec. Scoop. Au groupe Yvon Michel, cette semaine, il y a eu des coupures. Kim Clavel, selon une source, ne serait pas de retour en avril. Elle prendrait son temps. Et le show de Jean-Pascal, qui va avoir lieu en mars, lui, c'est Noudi Biella qui s'occupe de tous les paiements. Yvon Michel est là comme promoteur. Il va pas vraiment impliquer sa propre argent. Fait que, attendez-vous à ce que le groupe Yvon Michel soit sur pause jusqu'en juin ou juillet. Tant mieux si je me trompe, il nous annonce 6 shows, là, mais moi, je vous dis que, de source assez sûre, le groupe Yvon Michel est sur pause pour 4 à 6 mois. On va voir publiquement Yvon Michel au show de Jean-Pascal parce qu'il est un peu employé par Noudi Biella et est un peu en copromotion. Il va avoir de ses boxeurs. Je peux vous dire que Mathieu Germain sera sur la carte scoop contre un boxeur canadien. Je peux vous dire que Caroline Vert va être sur la carte contre quelqu'un que vous connaissez. Il va avoir Jessica Camara. T'sais, il va avoir il va en avoir des combats. Je peux vous donner la date aussi. Scoop, c'est le 16 mars. Mais Yvon Michel, c'est ça. Il n'implique pas son argent personnel. Puis attendez-vous à un break. Là. Attendez-vous à ce qu'il y ait une pause. Parce que parce que la locomotive est débarquée du wagon. La défaite de Kim Clavel. Vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences? Vous vivez dans un beau monde de Kalinours avec vos textes pour nous dire que une défaite, c'est la plus belle chose qui est arrivée. Genre. Non. Désolé si je suis rabat-joie. Dans mon idée, quand j'ai vu Kim Clavel perdre contre Jessica Neri Plata, je me suis dit, si Marie-Ève Dicker pouvait rester pour un ou deux combats, elle pourrait prendre la relève et être celle qui est à l'avant-scène, qu'on remet en avant, en haut de la scène. Je la voyais très bien affronter Frankie Herman pour le titre vacant de la WBA, ou même s'essayer contre Terry Harper à 147 livres pour le même titre de la WBA. Mais, dans un texte avec Benoît Rioux cette semaine, Marie-Ève Dicker semble décisive. Elle quittera la boxe professionnelle pour le monde des médias québécois. Et ça, Mais ça me fait la plus grande peine parce que, dans ma tête, Marie-Ève Dicker pouvait encore gagner un titre à 147, devenir championne pour une troisième fois et championne dans une deuxième catégorie de poids. Ce qui, disons-le, aurait été une belle réalisation pour elle. Donc, Marie-Ève, c'est à toi la tête, c'est toi qui reçois des coups, je te comprends l'arrêter, mais si tu veux rester, il y a des opportunités. Et si tu quittes pour revenir dans 2 ans, c'est pas une très bonne idée. Fais ce que tu as à faire, accomplis au bout, donc peut-être t'essayer à 147, mais prends pas une retraite pour revenir, là. Sinon, on te souhaite la meilleure des chances dans le monde des médias et amuse-toi. Alors, c'était ta chronique québécoise. Je vais aussi vous faire une prédiction. Si Éric Bazignan l'emporte contre Atlantes Fox et que Christian Mbili l'emporte contre Carlos Góngora, je vous fais la prédiction que d'ici la fin de l'année 2023, Christian Mbili sera en championnat du monde WBC contre David Benavidez. Benavidez se bat le 25 mars, Mbili se bat le 23 mars. Et je vous fais une autre prédiction. Éric Bazignan va affronter David Morel pour le titre WBA 168 livres cette année. Ma prédiction, c'est que les deux boxeurs de Eye of the Tiger seront en championnat du monde en 2023. Hein? J'en ai pas peur de faire ça. J'ai pas peur de faire ça, les prédictions. Je fais aussi une prédiction. Mary Spencer va remonter dans le ring au mois de mars. Et une autre prédiction. On va avoir des nouvelles pour Makhmoudov dans les prochaines semaines. Donc, ça fait un peu le tour de ta chronique québécoise. Je nomme bien les dates. Je vais me faire taper ses doigts. 18 mars, show de New Era. Attendez-vous à un retour surprise qui va toutefois vous rendre très heureux. Et en finale, attaque Gazian, un boxeur de l'Azerbaïdjan qui est un Turc qui a participé au K1, qui est sur l'équipe nationale. C'est Gary Friedman qui l'a amené à Toronto, qui maintenant croit en lui. Et on les a surpris, on leur a offert une très belle offre pour affronter Alexis Barrière et ça a été accepté. Le 18 mars à Longueuil, je vais vous dévoiler la sous-carte, vous allez être très impressionnés. La semaine prochaine, on est quelle date aujourd'hui, le 22? Je pense que c'est le 2 février, il y a une carte de Eye of the Tiger au Casino de Montréal et Alexandre Gaumont sera sur la carte. Je vous présente une entrevue avec Vincent Tremblay.
Alexandre Gaumont, comment tu vas?
Va très bien, toi.
Super. Parle-moi de ta préparation. Comment ça s'est passé? Gros combat qui arrive là, le 2 février au Casino de Montréal. Parle-moi comment tu vois tout ça.
C'est un autre gros combat pour moi. Ça va faire 3 combats de suite en pas beaucoup de temps. Là. Fait que je suis déjà pas mal en forme. Il reste juste des petites stratégies à planifier pour le combat, mais à part de ça, là, je suis déjà en forme pour me battre. Là.
Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire?
C'est un gars qui a un petit peu plus d'expérience que moi. Il a 8 victoires, 4 défaites. Dans ses 8 victoires, il y a 6 KO. Fait que j'imagine qu'il est capable de frapper quand même assez fort. Il va falloir que je fasse attention à ma défensive encore une fois. Faut pas que je mange des coups pour rien parce que en boxe pro, on sait jamais ce qui peut arriver. J'ai regardé une vidéo de lui, ça a l'air d'un gars qui a quand même une pas pire défensive aussi. Là, il se bloque quand il a les mains hautes, il boxe avec les mains hautes. Il va falloir que je trouve mes ouvertures puis que je sois opportuniste au bon moment. Là.
Sur quoi on travaille dans un camp d'entraînement? Parce que tu sais, souvent en début de carrière, tu te retrouves souvent contre des gars qui. Je veux pas dire à la dernière minute, mais ça arrive sur le temps. Mais ton camp d'entraînement, sur quoi tu les derniers, là, sur quoi tu travailles particulièrement?
Ben moi, on trouve que j'ai quand même une bonne offensive, fait qu'on travaille plus la défensive pour l'instant. Là, surtout mes derniers combats, mes adversaires ils ont tout le temps changé dans les 2-3 dernières semaines. Là, le combat que je m'en vais faire là aussi, mon adversaire a changé dans les dernières semaines. Fait que c'est sûr qu'on peut pas vraiment se préparer exactement pour un certain type d'adversaire. Il faut tout le temps que Fait qu'on essaie de plus préparer moi, qu'est-ce que je peux faire, contrairement à qu'est-ce que l'autre il va faire contre moi, parce qu'on ne sait jamais contre quelle sorte de boxeur que je vais affronter.
En 2020, on se parlait, puis tu me disais, tu sais, on parlait des épisodes passés d'anxiété, de changer d'adversaire à dernière minute, j'imagine, c'est pas évident.
Ben c'est sûr que c'est quand tu prépares pour un adversaire puis tu changes, c'est sûr que ça te met un petit stress de plus. Tu sais pas à quoi t'attendre quand tu prépares pour une personne qui fait telle chose de bien puis ça change à la dernière minute, c'est pas évident. Mais dans mes derniers camps d'entraînement, j'ai été très bien préparé. Fait que quand j'ai su que j'ai changé d'adversaire, j'ai pas eu vraiment beaucoup plus de stress, là. Je le savais que j'étais prêt pour affronter n'importe quel adversaire qui m'aurait mis en face de moi.
Ça ressemble à quoi une semaine typique en plein camp d'entraînement, mettons au début du ou au milieu d'un camp d'entraînement, lorsqu'on se prépare pour un combat quand même important pour ta carrière comme celui du 2?
Ben comme en ce moment là, je suis dans la semaine pas mal la plus importante avant mon combat là, cette semaine, puis la semaine prochaine c'est mes deux dernières grosses semaines d'entraînement. C'est beaucoup de mettons de cardio puis de pour faire sûr que je suis prêt à faire les 6 rounds si ça se rend à 6 rounds. Moi je pense que je suis prêt là, on a beaucoup travaillé ça, fait que c'est pas mal ça là. À tous les jours je m'en vais au gym puis on travaille le cardio pour faire 6 rounds.
D'avoir côtoyé les deux, ceux qui ont pavé dans l'époque moderne, là, Danick Croteau, Pascal Villeneuve, de les avoir vus chez les professionnels, puis de s'être dit, ben, est-ce qu'on se dit, ben, les erreurs qu'ils ont fait, je les reproduis pas, ceux qui ont fait bien, je veux le reproduire, mais est-ce que ça nous donne une idée de ce que ça prend pour connaître du succès chez les pros?
Ben c'est sûr, comme tu as dit, j'essaie les erreurs qu'ils ont fait, c'est sûr que j'essaie de moins les reproduire qu'eux autres. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses aussi, là. Je te dirais que ces deux gars-là, c'est une grande partie de pourquoi qu'est-ce que je suis aujourd'hui, côté boxe, parce que Danick, là, on a fait des rounds de sparring, puis c'est à cause de pas mal lui que j'ai vu que j'avais le niveau de peut-être aller pro un jour quand j'étais plus jeune. On a fait beaucoup de guerres, moi puis lui, puis là, maintenant, Pascal Villeneuve vient de recommencer à s'entraîner. Fait qu'on va mettre les gants bientôt. On va travailler d'autres choses avec Pascal. Puis c'est sûr que ça va m'aider encore.
Je sais qu'un retour, ça le travaille. Il y a plusieurs promoteurs qui veulent le relancer, mais parle-moi justement dans les prochaines. Oui, tu as ce gros combat-là pour toi, mais qu'est-ce que tu souhaites accomplir là, à court terme en boxe professionnelle?
Ben c'est sûr que j'aimerais ça peut-être avoir une ceinture championnat canadien ou une petite ceinture mineure là, d'ici la fin de 2023. C'est sûr que ce serait le fun. J'imagine que c'est atteignable aussi là, environ à la fin de l'année. Si j'ai 10-11 combats, c'est à peu près ça le niveau des ceintures canadiennes et ces ceintures-là. Fait que c'est sûr que ça serait le fun. C'est sûr qu'aujourd'hui, les ceintures canadiennes, c'est moins populaire que dans le temps de Gaétan Hart. T'sais, comme en ce moment, je sais même pas c'est qui a la ceinture canadienne dans ma catégorie. Dans le temps de Gaétan Hart, avoir une ceinture canadienne, il y avait beaucoup de combats locaux avant, fait que c'était beaucoup plus grandiose d'avoir une ceinture canadienne avant qu'aujourd'hui, mais j'aimerais quand même ça l'avoir.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'entraîne, les combats locaux?
Oui, moi, ça me dérange pas. Les combats locaux par ici, les ceux qui sont en haut de moi dans les classements de Boxrec, c'est des gars qui s'en vont au championnat du monde, c'est Butler, Patrice Volny. C'est des gars comme je suis pas vraiment rendu au niveau de me battre avec eux autres. Là, ça leur donne rien de se battre avec moi, ils s'en vont en championnat du monde. Fait que c'est sûr que ça donne rien de m'affronter. J'ai beaucoup de travail à faire aussi avant de me rendre à ce niveau-là. Là. Je dis pas que je suis prêt à les affronter, mais les autres, je sais même pas qui est dans ma catégorie qui a mon nombre de combats pour qu'on fasse un combat là.
Je pense que même si on nommait les noms, les gens à la maison, à moins d'être un fin connaisseur du monde de la boxe, il y en a pas beaucoup qui les connaîtraient. Qu'est-ce que ça change d'avoir un promoteur comme derrière toi, comme Camille Estéphane avec Eye of the Tiger Management?
Ben c'est sûr que avoir un promoteur, c'est la meilleure chose quand tu boxes professionnel. Moi, la seule chose que j'ai à faire, moi, c'est de m'entraîner. J'ai pas besoin d'essayer de me trouver des adversaires, de me trouver quand que je vais me battre, où que je vais me battre. Tu sais, mon coach non plus. Mon coach, j'ai juste besoin de m'entraîner. À chaque soir, on va au gym, on fait juste s'entraîner, on se concentre sur moi. On n'a rien besoin d'autre à faire que s'entraîner. Mon promoteur s'occupe de tout le reste. Fait que ça, c'est la meilleure chose pour une carrière de boxe.
2023-2024, remplir le centre Slush Puppy, c'est ce que tu souhaites?
Ouais, ça serait quelque chose, là. La dernière fois que je me suis battu à Gatineau, il y avait 1000 personnes, puis c'était le plus beau feeling que j'ai jamais eu. Fait que remplir le Slush Puppy avec 5000 personnes de Gatineau là-bas, là, ça serait fou, là.
Alexandre Gaumont, merci beaucoup. On te souhaite le meilleur combat possible, puis assurément qu'on va pouvoir se rejaser 100%.
Merci, là.
Le très grand Vincent Tremblay à l'animation de cette entrevue. Gennady Golovkin a déclaré qu'il y aurait de l'intérêt à affronter Liam Smith après que Liam Smith ait battu Chris Eubank Jr. Et ça a fait parler beaucoup de monde, hein. Il y a Billy Joe Saunders qui n'a pas la langue de bois qui est sorti publiquement pour conseiller à Chris Eubank de prendre sa retraite. C'est Chris Eubank, ça allait quand même bien. Puis il t'a mangé la meilleure claque de Liam Smith à la tête. Puis là, finalement, knocké au quatrième. Ça va pas bien. C'était un gros combat en Angleterre avec beaucoup de monde. Jonathan Guidry a battu Bermann Stiven au juge dans une carte assez large. Merci. Tyson Fury, lui, a déclaré qu'il n'y aura jamais le temps d'affronter Anthony Joshua en 2023, qu'il y allait, il allait battre Usyk et Francis Ngannou, ce boxeur qui nous vient du monde du UFC. George Groves, lui, son idée, c'est que Chris Eubank Jr. était tellement déshydraté à 160 qu'il n'y avait aucune chance de battre Liam Smith. Et lui aussi rêve de Liam Smith contre Golovkin en Angleterre. Liam Smith, lui, on lui a offert une revanche contre Chris Eubank. Il a dit, ben, je l'ai battu une fois, je peux bien le battre deux fois, mais je vois pas en quoi ça va faire progresser ma carrière. Mais Eubank avait une clause de revanche automatique. Fait que je sais pas comment qu'on va gérer cette patente-là en Angleterre. Josh Taylor est blessé, Jack Catterall devra attendre avant d'avoir son rematch. Catterall s'était tellement fait voler au juge que dans son pays, je pense en Écosse, ma mémoire est bonne, il y a un politicien qui s'est levé et qui a demandé une enquête publique puis a appelé la police pour parler de vol. Deontay Wilder contre Andy Ruiz Jr. au mois de mai, possiblement aux Émirats arabes unis ou aux États-Unis. Les Émirats arabes unis ont de l'argent. Sur un moyen temps. Qu'est-ce qui serait arrivé d'autre? C'est drôle. Roy Jones était dans le coin de Chris Eubank et Ross Amber était dans le coin de Liam Smith. Henry Lundy veut envoyer Adrien Bruneau à la retraite le 25 février prochain. Les gens qui payent le pay-per-view pour ça, l'inflation, c'est pas rendu chez vous. Devin Haney va affronter Lomachenko. On parle du 20 mai prochain. La question, c'est comment Annie va faire pour peser 135 livres. Ça, c'est pas fait. Régis Progrès a déclaré que Ryan Garcia était mieux de faire très attention à Tank Davis. Je ne sais pas c'est quand la date, là, mais on va avoir Davis contre Garcia. Un moment donné cette année, ça négocie très fort entre Dillian White et Otto Wallin. On serait en voiture si on avait ce combat-là. Otto Wallin. Joseph Joe Joyce contre Zhang Zile le 15 avril prochain. Très content, mais le Zile vient de faire une grosse performance contre Ergovic. C'est un Chinois qui est allé aux Jeux Olympiques. A le droit d'avoir sa chance. Et là, il va avoir contre Joe Joyce. Les deux étaient la même année aux Olympiques. Maudite belle histoire, puis maudite belle occasion pour les deux. Grosse rumeur pour la fin de l'année. Dimitri Bivol contre James Mongouya. Mongouya a déjà passer de 154 à 160. Et là, il aurait de la place sur son corps pour monter de 160 à 175 directement en championnat du monde. Et ça, c'est Eddie Hearn qui est sur ce dossier-là. Naoya Inoue contre... comment il s'appelle? Là, Stephen, là, je viens d'oublier son nom. Fulton. Dans un combat d'unification complète, c'est ça qu'on entend de plus en plus dans une unification pour deux ceintures. C'est ça, il affronterait... c'est réglé. Il va affronter Stephen Fulton pour deux ceintures. Et par la suite, si ma mémoire est bonne, il reste l'autre champion, Muradjan Akmaladiev, champion IBF WBA, plus tard cette année. Donc, Inoue pourrait unifier en deux temps les ceintures à 122 livres, une quatrième catégorie de poids pour lui. J'admets que c'est spectaculaire. La semaine prochaine, comme c'est le dernier podcast avant dimanche prochain, je vais vous en parler. La semaine prochaine, Anthony Yardé, 31 ans, 23-2, 88% de KO, va affronter Arthur Beterbiev, qui a 37 ans, lui 18-0, 100% de KO. Je vais vous le dire, ce combat-là ne se rend pas au quatrième. Beterbiev va sortir Yardé de ses souliers. Yardé avait été complètement débordé par Sergei Kovalev. Quand Kovalev avait déjà ralenti, je pense que Beterbiev est bien meilleur que Kovalev à l'époque qui a affronté Yardé. Il n'y en aura pas de facile. Kell Brook parlait déjà qu'il allait sortir de sa retraite cet été. Écoutez, il peut bien faire ce qu'il veut. Hein. S'il veut se battre jusqu'à 104 ans, ça lui appartient. Shakur Stevenson attendait patiemment le gagnant entre Caterall et Josh Taylor. Malheureusement, ce combat-là est reporté. Le prospect que vous devez surveiller cette semaine chez les 140 livres, c'est Richardson Hitchin. Je vous avertis. Bientôt, on va payer le gros prix pour le voir boxer. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y avait des rumeurs, ça c'était bizarre. Il y avait une rumeur cette semaine que Manny Pacquiao sortirait de la retraite pour affronter Conor Benn avec le plus gros chèque de sa carrière en Angleterre. Permettez-moi de ne pas y croire. Canelo Alvarez contre John Ryder en mai en Angleterre aussi. L'Angleterre est en train de se payer tous les combats. C'est incroyable. Sinon, ça fait pas mal le tour des combats que je voulais vous annoncer. En fin de semaine, il y avait pas mal de boxe, mais il n'y avait comme rien pour appeler ses grands-parents. Mais la carte en Angleterre avait du bon sens. On a vu Chris Eubank qui, après avoir gagné les trois premiers rounds, s'est fait assommer. Ça, moi, j'en suis pas encore revenu, là, pour vous dire la vérité. Il était favori à 3 contre 1, Chris Eubank. J'avais failli gager sur lui à mise au jeu. Puis, ben, je m'étais retenu à la dernière minute en me disant « Slack donc mise au jeu un peu ». Finalement, boum, au quatrième, victoire de Liam Smith. Richard Riak-Pori, qui est juste un méchant animal, il a arrêté Christophe Glowacki, l'ancien champion, quatrième ronde sur un barrage de coups. J'admets que je suis assommé de celle-là. Ikao Issouman a gagné une majority decision contre Chris Kongo. Superbe combat local. Chris Kongo n'a pas à rougir. Il va demeurer encore un aspirant mondial puis un gars qui vend chèrement sa peau. Joseph Parker a battu Jack Massé. On pensait qu'il allait le knocker. Si on regardait les parieurs, finalement, un bon combat. Hey, il commence à être tort. Assez bien partagé. Et Fraser Clark a battu Kevin Nicolas Espindola. Tout le monde trouvait que Spindola n'a pas d'affaire là contre Clark vu qu'il était 7-6. Finalement, il s'est rendu au quatrième, a été assez résistant quand même là, dans cette histoire-là. S'est débrouillé un peu. Tenez-vous bien, il y a Mitch Louis-Charles, le Québécois, qui affrontait un boxeur qui était bien classé, quand même un prospect, et il l'a knocké. Et ça a pris un peu tout le monde par surprise au casino de Mohegan Sun à Uncasville. Demandez-moi pas c'est où, Uncasville. J'aurais tendance à dire au Connecticut, mais je suis pas sûr. Puis Mitch Louis-Charles a knocké ce gars-là. Yosnel Castro au quatrième round. Mitch Louis-Charles qui est peut-être un des plus beaux talents que j'ai vu, mais qui n'est pas un gars très sérieux. Mais là, ça va bien. Tu sais, il vient de knocker son gars, là. Peut-être qu'il va partir sur une séquence et pourquoi pas le ramener éventuellement au Québec. On a des promoteurs qui ont besoin de boxeurs pour compléter leur gala. La semaine prochaine, ne manquez pas le podcast 120 secondes de Marie-Ève Albert pour entendre parler du combat de Mélisse Gangloff qui affronte Betty Franco vendredi en France. Sinon, moi, je vais surveiller ce vendredi. Sergei Boatchuk, qu'on a failli avoir contre Mikhaïl Zouski, va affronter Natalien Gallimard, qui est un Gallimard, il vend chèrement sa peau. Je pense que ça vaut la peine d'écouter ça. Sinon, ben moi, je vais juste regarder la finale parce que ce gars-là, c'est pas terrible, mais écoutez, des fois, je check juste des finales. Il y a Otto Wallin qui va affronter Alaman Holguin avec une victoire. On va probablement finaliser son combat contre Dillian White à l'autre poste. Au Canada, il y a Sungit Singh Batty, qui est une grande vedette. Déjà, va affronter Victor Ionescu. Et Brandon Cook va affronter le Jamaïcain Richard Holmes. Moi, je vais vous en faire une prédiction. Brandon Cook contre Stephen Butler, la revanche avant la fin de l'année. Vous l'aurez appris ici même, dans le fond. C'est moi qui viens de vous le dire. Sinon, la semaine... ma voix est... Je viens de muer, j'ai 40 ans. Je sais pas où ça... Sinon, on a bien sûr, on a Arthur Beterbiev contre Anthony Yardé. En sous-carte, on a Artem Dalakian contre David Jimenez pour le titre WBA Flight. Ça devrait déménager, c'est un moyen temps. Willie Hutchinson, l'ancien prospect à 175 livres, va affronter Émile Markic. Markic vend chèrement sa peau. On a Carole Itoma, le frère de Mose Itoma, le poids lourd, qui va affronter Ezekiel Maderna, qu'on a déjà connu ici au Québec. C'était fait, si ma mémoire est bonne, Beterbiev, il en avait donné une joie le vert à lui. Ouais, au quatrième round, c'est ça. Là, maintenant, il affronte un prospect. On a Umar Khan contre un autre bâti. Écoute, une carte qui a bien du bon sens. Puis les débuts pro de Mose Itoma. Fait que si Mose Itoma bat tous les records comme il dit qu'il va faire, il pourra dire que c'était Beterbiev qui faisait sa finale. À l'autre poste, gratis sur YouTube, on a Bektemir Milikouziev qui se relance contre Ulysse Sierra. Et Floyd Caulfield contre Alberto Mercado pour le titre WBA international. Moi, je vais checker ça d'un... Je vais regarder ça du coin de l'œil. Et ça fait le tour des combats de la semaine prochaine. On retient que Arthur Beterbiev pourrait aller chercher une 19e victoire par KO en 19 combats. Et la semaine prochaine, quand vous serez à mon podcast, ben, on va commencer à parler de la carte de Eye of the Tiger entre Bazinian et Alantes Fox. Merci et je vous avertis, on est en mode Cowboys de Dallas.
Moi, j'ai jamais changé d'idée. Bravo, tu veux lutter contre moi. T'es un traître, tu parles à tout le monde. Que tu veux être, t'es un Québécois, il n'y a rien au monde qui va t'enlever du Québec. T'es allé chercher un étranger, par exemple. T'es allé chercher King Tonga. C'est moi qui étais ton partner avant. 40 000 piastres qui m'a été offert. J'étais un cave, moi, je suppose. J'étais un petit cave, moi. Hein, bravo! J'étais au centre Paul Sauvé, puis à bac dans l'arène. Je vais te montrer qu'est-ce que c'est, moi. Un vrai Québécois. Que le monde crie contre moi ou pour moi, ça me dérange pas. Ben moi, je le sais.